A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis et bienvenue dans le FC Stream Team. Stream Team en forme internationale pour une semaine internationale, Martin.
Je sais pas si je suis en forme internationale, mais en tout cas, ça me fait plaisir de reparler de l'équipe de France avec mon vieux compère.
Vieux compère, dire,
Maxime Dupuis.
En un mot.
Évidemment.
Oh, évidemment, Maxime. Je ne me permettrai pas.
Alors, ça fait partie des rares émissions où je ne sais pas quoi raconter là.
Ah bah là, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en commençant comme ça, tu vas donner envie aux gens.
Non, je sais quoi raconter sur les sujets. Mais sur l'intro, parce que je sais, j'ai eu la preuve encore ce matin qu'il y avait des gens qui aimaient bien le ton des intros. Je sais que c'est clivant parfois.
Non, non, bah alors je vais te rendre hommage.
Ah.
Et vraiment.
Ah, bah ça fait plaisir.
Voilà, je vais vraiment te rendre hommage. Parce qu'aujourd'hui, Maxime m'a fait un cadeau.
Ah oui.
Et il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau. Alors, sachez, alors vous savez que Maxime est mon N plus 1. Hein, toujours.
Toujours.
Toujours, toujours. Donc, c'est votre patron. Et imaginez votre patron vous faire un cadeau comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais Maxime, ce matin, m'a offert, voilà, très gentiment, très gracieusement, sans rien demander en retour, mais peut-être qu'il a enfin pris conscience de tout ce que je lui apportais depuis 15 ans, il m'a offert un maillot dédicacé, de Félix Lebrun. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici Félix Lebrun. C'est un peu quand même un garçon qui a dépassé son sport et les frontières du sport, je dirais.
Qui va peut-être être médaille olympique.
Champion olympique difficile, mais médaille, peut-être, voilà, qui fait du ping-pong. Donc Maxime m'a offert ça ce matin et je dois quand même profiter de cette antenne que j'ai pour le remercier chaleureusement. Voilà.
Écoute Martin,
il y a pas de vanne derrière, il y a rien.
Non, ça me fait plaisir.
Ça me fait très plaisir.
Ça faisait très plaisir de l'offrir parce qu'en fait je l'ai gagné. Voilà, je suis arrivé. On va pas citer ce qui s'est passé. Voilà, un congrès de l'UJSF. Voilà, c'est là.
T'as cité quand même.
Maintenant, mais faut expliquer. Voilà, il y avait des maillots à gagner et j'ai dit à Martin, écoute, si je le gagne, je te l'offre.
Voilà.
Et comme moi, généralement, je gagne.
T'as terminé troisième si j'ai bien compris. Tu vois, je voulais pas me mettre de... Mais là, tu cherches. T'as pas gagné, t'as terminé troisième.
Il y avait 50, plus de 50 participants.
Oui, bah t'as pas gagné. Non, mais t'as pas gagné, on est d'accord.
J'ai pas gagné, mais voilà. Là, ce que j'ai gagné, en revanche, c'est au moment où il a dit « Vous pouvez voulu aller chercher un maillot ?» C'est moi qui ai gagné la course. Parce que je me disais, si je me fais passer devant, il y aura pas le maillot. Et j'ai quand même laissé de côté du Rudy Gobert signé et d'autres maillots.
Tout à fait.
Que j'aurais bien aimé avoir. Voilà, mais je me suis dit, en même temps, je me suis dit, voilà. C'est un peu comme avec les enfants. Je me suis dit, je lui ai promis en début de soirée, s'il me voit avec un autre maillot, je vais lui dire
non.
Ah non, mais en fait, quelqu'un l'avait gagné avant, mais j'aime pas mentir. Ça, alors j'ai des défauts.
C'est vrai, mais que t'es droit.
Mais je suis assez droit.
Ouais, t'es droit.
Et comme je voulais pas mentir, je me suis dit, je vais aller chercher le maillot, voilà, donc ça me fait très plaisir de l'offrir. Et Martin, évidemment, le portera dès dimanche au championnat de France de tennis de table à Montpellier.
Exactement, car je m'aligne. Voilà, je suis tête de série numéro 18.
Voilà.
Ceux qui, voilà.
Donc tu es encore comment dire.
Là, je t'ai pas là. Je peux pas
te qualifier, c'est le terme pour dire tu es.
Olympiable.
Olympiable, voilà. C'est Olympiable. Un terme qu'on vient d'inventer.
Ouais, on vient de l'inventer, tout à fait. Cela dit, pour battre les deux frères Lebrun, je pense qu'il faut se lever tôt quand même. Hein.
C'est ça, et d'ailleurs, je crois savoir qu'en effet, en plus, tu vas te lever tôt.
Je vais me lever très tôt et surtout me coucher très tard.
Et pas très bien,
non. Vous aurez les détails de mon voyage à Montpellier, peut-être dans le prochain MC Stream Team, si je suis toujours là. De quoi on va parler aujourd'hui, Maxime? On va parler équipe de France. On va parler équipe de France, équipe de France et équipe de France.
Ouais.
Mais sous des aspects différents.
Oui, on va commencer par le dernier sujet qu'on ne va pas développer évidemment tout de suite, mais en dernière partie. Je ne sais pas si vous êtes des fidèles auditeurs des Fous du Volant, l'émission de Sport Méca d'Eurosport, mais il y a une petite habitude dans les Fous du Volant, en début de saison, c'est de noter les livrets de la saison de F1. Donc Quentin Guichard, notre graphiste, vient dans l'émission pour donner son top des Formule 1. Et ben on lui a demandé de faire pareil avec les maillots historiques de l'équipe de France, puisque l'équipe de France a sorti son nouveau maillot pour la période 2024-2026.
Et on vous donnera notre top 5, nous aussi. On vous dira quel est notre maillot des Bleus préféré. On débutera cette émission par une question sur trois hommes qui pourraient débuter samedi face à l'Allemagne. Trois hommes qui sont Benjamin Pavard, Warren Zaïre-Emery et Marcus Thuram, et on se demandera si ces trois-là, qui a priori ne sont, sont soit aux limites, soit pas dans le 11 titulaire, est-ce qu'ils pourraient démarrer l'Euro en qualité de titulaire des Bleus.
Ensuite, on parlera de l'équipe de France féminine et de Hervé Renard, qui a plus que laissé entendre par sa voix, par celle de Philippe Diallo, ou encore Jean-Michel Aulas, vendredi matin dans l'équipe, qu'il pourrait très bien quitter l'équipe de France à la fin des JO.
Ça nous énerve.
C'est pas que ça nous énerve, mais
ça nous épuise.
Ça m'épuise pas non plus.
Ça nous fatigue.
Se demander s'il est vraiment venu pour l'équipe de France féminine ou pour les Jeux, pour le coup.
Voilà.
C'est presque ça la question.
Exactement. Bon, on va débuter, Maxime.
Bah, on
peut
débuter puisqu'on a déjà commencé par le 3e.
On a commencé
voilà.
par la fin, mais là, on va commencer par le début.
On va quand même rappeler que l'émission est téléchargeable, downloadable.
Downloadable
sur toutes les bonnes plateformes, les mauvaises, Acast, Podcast, j'en ai inventé une, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Bon, enfin, vous les connaissez, ça fait des années qu'on les répète.
Ouais.
Puis de toute façon, j'imagine que vous savez aller sur Google, chercher plateforme podcast et trouver.
J'espère.
Voilà.
J'espère.
Donc abonnez-vous surtout, c'est important, comme ça vous avez l'épisode qui tombe, comme des fois il est tourné parfois à 14h, parfois à 15h, hop, vous n'avez pas besoin de faire l'effort, vous le trouvez tout de suite, et puis vous mettez des étoiles, des commentaires, et puis...
Exactement, ça nous rend heureux, ça nous rend... Voilà. Ça nous rend...
Il ne faut pas grand-chose.
Il ne nous faut pas grand-chose, juste des étoiles, un peu d'amour, et puis nous en fait on est des cœurs sensibles,
ouais,
et des cœurs à prendre.
On est simple.
Ouais, voilà, exactement, on est simple, mais... Et voilà, on a envie d'être entouré d'amour et de bienveillance. Comme Maxime qui m'a offert ce maillot de voilà, c'est un
j'ai marqué
d'amour.
Des points.
Ouais, ouais, t'as
mais
marqué des points.
D'ailleurs, j'en parlerai à la fin. C'est vrai, parce que Martin m'a déjà offert des maillots.
C'est vrai, c'est vrai. On se galoche tout de suite ou ça se passe comment? Allez, on va démarrer. On va démarrer cette émission avec France-Allemagne. La France qui est engagée dans la dernière ligne droite vers l'Euro, il restera 4 matchs. C'est le premier de ces 4 matchs-là face à la nation hôte de l'Euro. Et 3 hommes pourraient débuter face à l'Allemagne. 3 hommes qui n'ont plus forcément l'habitude, forcément l'habitude de démarrer les matchs de l'équipe de France, qui pourraient être incorporés dans ce qui s'annonce être comme un 11 type. Ces 3 hommes sont Benjamin Pavard, Warren Zaïre-Emery et Marcus Thuram. Maxime, est-ce que c'est simple? Ma question est simple, pardon, est-ce que ces trois-là ont une chance d'être titulaires au championnat d'Europe en juin?
Alors, ma réponse est globalement oui. Alors, un oui très large, mais qui n'est pas sur tout le monde. Voilà. Je vais commencer, on va peut-être faire par ligne.
Ouais.
Je vais commencer par l'arrière et par Benjamin Pavard, qui, lui, s'il est titulaire à l'Euro, ce ne sera évidemment pas arrière-droit. On sait ce qui s'est passé. Il fut pendant longtemps l'arrière-droit titulaire des Bleus. Il le fut un peu par défaut à la Lilian Thuram, mais avec un peu moins d'autorité sur son côté. Mais ça a suffi quand même à remporter une Coupe du Monde, donc c'est plutôt pas mal. La rupture définitive de Benjamin Pavard arrière-droit, c'est France-Australie, Coupe du Monde 2022. Et on a même pu penser à un moment qu'il y aura une rupture un peu plus forte, parce qu'en gros, ça a été un joueur qui restait dans un groupe sans aucune chance de jouer et qui n'y était plus du tout. Bref, tout est rentré dans l'ordre et Benjamin Pavard, qui a eu aussi tendance à insister là-dessus, dire qu'en gros, moi, je suis un défenseur central et pas un latéral. On avait vu aussi qu'il avait des grosses difficultés en latéral, piston avec une défense à 3. Donc maintenant, l'avenir de Pavard, il s'écrit seulement dans l'axe de l'équipe de France. Mais c'est un axe un peu différent par rapport à l'Inter, puisque c'est un axe à 2 et non à 3. Il est très bon avec l'Inter Milan dans une défense à 3, mais ce qu'on lui propose dans l'équipe de France, et s'il joue dès samedi face à l'Allemagne, ce serait d'être axial droit, parce qu'on l'a vu, Konaté ou Upamecano, c'est très bien. Ce fut la charnière centrale titulaire pendant la Coupe du Monde, sauf que...
À la fin de la Coupe du Monde, parce que c'était Varane.
Oui, voilà, il y en a toujours un qui... Oui, t'as raison.
Après la Coupe du
Monde. Voilà, et on avait vu dès le premier match que c'était pas mal, mais en tout cas, que c'était l'avenir de cette équipe. Sauf que on ne les voit que très rarement ensemble et c'est compliqué. Et surtout, Pavard fait une excellente saison. Et souvenez-vous du dernier match qu'il a joué face à l'Écosse, il a mis 2 buts et globalement fait le boulot. Donc je pense que il y a une petite musique qui est en train de monter avec Pavard et qui pourrait faire que la forme du moment puisse rabattre les cartes. Alors encore une fois, Didier Deschamps, il est évidemment fidèle à ses idées et souvent à ce qu'il a mis en place. Mais on a vu, et d'ailleurs Pavard en avait profité avant la Coupe du Monde 2018, qu'il se peut qu'en match de prépa, il y ait une petite ouverture qui se fasse à des postes. Et je me dis que si Pavard était bon face à l'Allemagne samedi soir, ça ne le desservirait pas.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que Konaté ou Upamecano partent quand même avec une longueur d'avance, et que si ces deux-là, et notamment Konaté, parce que là on parle de l'axe droit, est à 100% de ses capacités, il est quand même bon à Liverpool, en équipe de France il a été très bon Konaté depuis la Coupe du Monde. Après c'est un gros si, parce qu'il faut se rappeler que Konaté, si je ne dis pas de bêtises, a raté le rendez-vous de septembre, Il a raté le rendez-vous de novembre aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les blessures et Konaté apprennent, voilà, il se côtoie souvent et il est souvent sur le flanc. Donc, après, si, déjà, l'exploit pour Pavard, c'est d'être la deuxième option derrière Konaté parce qu'il il partait quand même d'assez loin. Le cas Pavard nous rappelle que Didier Deschamps n'enterre jamais personne parce qu'après la Coupe du Monde, on pouvait se dire bon, bah, Deschamps et Pavard, c'est complètement terminé. De toute façon, il a ses deux arrières droits maintenant, c'est Klose et Koundé. Non, il est revenu, il a été bon. Il a fait un pari quand même, Pavard, d'être très offensif dans ses interviews en disant « moi, je veux jouer dans l'axe », de partir à l'Inter Milan pour s'installer dans l'axe. Et force est de constater que voilà, ça porte ses fruits et qu'aujourd'hui, qu'il soit devant, par exemple, un William Saliba, qui est une référence à son poste en Première Ligue, mais qui a du mal en équipe de France. Ce qu'il a pour lui, Pavard, c'est l'expérience équipe de France. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a plus de 150 sélections. Ça compte aussi à un moment. Et, bah, et finalement, dans cette défense-là, maintenant qu'il n'y a plus Varane, et ben les tauliers, il y en a quasiment plus. Il reste Lucas Hernandez globalement, mais sinon il n'y a plus personne. Donc il a aussi cet avantage là. Moi je le mets quand même en second rideau derrière Konaté, mais c'est déjà énorme quoi.
Ouais, mais t'as raison. Mais le souci aussi, c'est que c'est pas que Konaté le problème des Bleus, c'est aussi Upamecano actuellement, qui n'est pas très bon. Alors là, ça
s'est inversé. Mais est-ce qu'il le ferait jouer axe gauche?
Oui, Konaté, oui.
Ah oui, Konaté, voilà.
Oui, c'est
Konaté,
ça. Tout à c'est-à-dire fait. Que tu peux mettre Konaté axe gauche, oui, Pavard axe droit. Ouais, ouais. Là, le seul truc, c'est que Pavard est un pur axe droit. Mais finalement, axe gauche, bah, y a des solutions. Ça peut être Lucas Hernandez, ouais. Ça peut être Konaté. Donc, on peut trouver, voilà. Mais enfin, en tout cas, je pense que... Alors, je ne veux pas dire qu'il a le vent dans le dos, mais ça ne me paraît pas impossible.
En tout cas,
impossible.
Sa cote, mais c'est, le parcours est fou.
Ouais.
La trajectoire.
C'est des renaissances. On parle souvent du Phoenix Giroud, mais lui, il y a une renaissance parce que lui, il y a une vraie rupture. Honnêtement, la Coupe du Monde 2022.
Ah, c'est une catastrophe.
C'est aussi la force de Didier Deschamps, c'est-à-dire de.
Ouais.
Enfin, c'est. Moi, je veux dire, il est pendant la Coupe du Monde 2022, il fait l'inverse que demande Deschamps, c'est-à-dire la compétitivité, et d'être complètement focus et d'être dans la tête. Là, on voit qu'il avait lâché. Et Deschamps est allé la rattraper par la manche, ce qui n'était pas forcément gagné. Mais en tout cas, des trois, sans vouloir dévoiler la
spoiler.
Suite, ce que je vais dire. Voilà.
C'est celui qui te semble le plus près.
C'est celui qui me prend le plus proche d'une place de titulaire. Oui, je sais très bien de qui on va parler. Et c'est
tu
pas
te
de
calmes.
Warren Zaïre-Emery.
Tout à fait. Warren Zaïre-Emery, sur les trois, c'est celui peut-être qui est le plus évident en termes de talent, de potentiel, etc. L'Euro arrive juste un peu tôt, je pense, pour lui. Parce qu'il est aussi dans un secteur où tu as trois mecs qui sont là, pour le coup, absolument indiscutables. Griezmann, Rabiot, Tchouaméni, c'était déjà le milieu de terrain au Qatar. C'est le milieu de terrain depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar. Et ce sera le milieu de terrain à l'Euro. Alors, sauf s'il y a une blessure, là encore, si effectivement Griezmann a du mal à se remettre de sa blessure, si je ne sais pas. Mais aujourd'hui, mais un peu comme Pavard, que ce soit lui la première solution derrière ces trois-là, même si on peut parler des postes, c'est pas sûr que ce soit la première solution en sentinelle ou à gauche, mais que déjà aujourd'hui, ce soit lui qui débute face à l'Allemagne, quand on sait d'où il vient en début de saison, il a une sélection, Warren Zaïre-Emery, il est arrivé à l'automne dernier, donc c'est déjà un énorme exploit, mais c'est celui qui, sur les trois-là, Thuram, Pavard et lui, c'est celui qui semble effectivement le plus évident dans sa carrière en équipe de France, dans celui qui va s'installer, qui va grandir dans cette équipe-là, qui a potentiellement, dans quelques années, un rôle de leader. C'est tôt, c'est très tôt. Il a 17 ans. Hein, si
18 ans,
ça 18 ans, 18 ans, ça y est. C'est très tôt, donc il faut jurer de rien. Malgré tout, c'est comme le nez au milieu de la figure, Zaïre-Emery. Mais l'Euro arrive pour moi un peu tôt.
Non, mais oui, voilà. Là, je vais aller très vite sur Warren Zaïre-Emery. Je ne vais pas rappeler les qualités, ce qu'il apporte aussi au milieu droit. Mais il a juste un défaut, là, c'est qu'il prend la place de Antoine Griezmann, pour poste.
Et Deschamps l'a dit cette semaine, voilà. Il est irremplaçable.
On va pas rappeler qu'il avait fait 84 matchs de suite en équipe de France, que c'est le joueur le plus important de la décennie, qu'il est pas loin du top 3 historique des Bleus, à mes yeux, que c'est un joueur qui sait tout faire, que voilà, je pourrais en parler des heures. Là, pour le coup, ça arrive un peu trop tôt. Alors, une blessure, un autre poste à la place de Tchouaméni, oui, peut-être, mais il y a quand même Camavinga, notamment sur la gauche. Donc voilà, potentiellement, il y a quand même d'autres solutions. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est remarquable déjà d'être là. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, parce que si je reviens sur les défenseurs, qui aurait imaginé que Upamecano serait dans la liste pour le Mondial? C'était quand même très loin de gagner. Et qui aurait imaginé qu'il serait titulaire pour un match et qu'il ferait ce match-là? Donc peut-être que Didier Deschamps a une idée derrière la tête.
Mais ces trois-là, ça marche trop bien. oui, ils voilà. se complètent trop bien et en fait, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ces trois-là.
Oui, c'est un milieu d'une complémentarité absolue dans les profils. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux gauchers d'ailleurs, que Griezmann est capable de faire l'essuie-glace, de tout faire. Donc, ouais, franchement, là, il n'y a pas trop de doute, mais déjà, qu'on le cite déjà dans cette liste-là et qu'il enchaîne une deuxième. Alors, il s'était blessé contre Gibraltar, mais qu'il enchaîne une deuxième titularisation en équipe de France, c'est plutôt pas mal.
Alors, il reste Marcus Thuram, 26 ans, 16 sélections. Est-ce qu'il débutera l'Euro ? Moi, je pense que de ces trois-là, c'est celui qui en est le plus proche parce que lui, il n'a pas besoin d'une blessure ou d'une méforme. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit de Didier Deschamps, en tout cas, avec Olivier Giroud, ça se joue à rien. Ça m'interroge parce que, comme je l'ai dit, il a 16 sélections, 26 ans et pour l'instant, Marcus Thuram, il a fait des bonnes choses en équipe de France, mais on ne peut pas dire qu'il soit imposé, que ce soit une évidence, que ce soit… Voilà. Pour moi, Giroud… de ce qu'il a apporté sur les grands tournois notamment, devrait partir avec une longueur d'avance sur Thuram, mais il y a le vent qui a un petit peu tourné. Faut se souvenir que quand même, il y a quelques mois, il y a un an, il partait avec du retard sur Kolo Muani et sur Olivier Giroud. Aujourd'hui, là, il semble avoir rattrapé ce retard. Kolo Muani parce qu'il s'est perdu au Paris Saint-Germain et qu'aujourd'hui, je vois mal Didier Deschamps démarrer une grande compétition avec Kolo Muani après la saison, alors à moins d'une fin de saison de feu que Paris gagne la Ligue des Champions grâce à lui, mais j'y crois peu. Giroud, tu sais ce que t'as plein de garanties. Mais bon, a priori, Marcus Thuram remplit pas mal de critères voulus par Deschamps. Je pense que c'est celui qui est notamment peut-être le plus complémentaire avec Kylian Mbappé. Et ça, ça, je pense que c'est hyper important pour Deschamps. Et même si… il fait une super saison à l'Inter Milan. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel en huitième de finale face à Atlético Madrid en Ligue des Champions. Pour moi, il manque encore de référence voilà, dans les très, très gros matchs, là où on l'attend. Mais sur les trois, si je devais miser sur un, ce serait sur lui.
Alors, je ne vais pas me contredire parce que j'ai dit Pavard, mais je suis d'accord avec toi, il n'est pas si loin que ça. Et comme dirait un confrère, ça joue à touche-touche, en fait. Mm. On n'est pas très loin. Mais encore une fois, je pense que Didier Deschamps, s'il le fait jouer contre l'Allemagne, c'est plus intéressant de voir Thuram avec 10 titulaires, c'est-à-dire dans la perspective de jouer avec 10 gars qui pourraient débuter l'Euro, voir comment ça fonctionne, la complémentarité, le poste pour poste par rapport à Giroud, que le contraire. Giroud, Deschamps, sait ce qu'il a avec lui. Il suffit qu'il joue contre le Chili mardi, qu'il mette 2 buts, on se dira, Giroud encore, voilà, c'est un peu… Mais c'est la réalité de Giroud, finalement, de laisser sa place une fois sur deux. Souvenez-vous qu'après la Coupe du Monde 2022, il me semble que le premier match, c'est Randal Kolo Muani qui le débute, et on se dit… c'est parti, on rentre dans l'ère Kolo Muani, Giroud, il aura un peu de temps de jeu, sauf qu'à chaque fois, Giroud, il est toujours là. Donc Didier Deschamps, c'est ce qu'il a avec lui. Et je pense aussi même qu'à l'âge qu'a Giroud, Didier Deschamps n'est pas contre aussi le gérer un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de le faire carburer maintenant, il a ses sélections, il a son record de but. On y va mollo, le but c'est d'être prêt à l'Euro, d'être en forme pour les peut-être 7 matchs à jouer à l'Euro. Donc voilà, c'est la réalité de Giroud, de jouer un match sur deux, de laisser sa place de temps en temps. Et je le répète, je pense que c'est plus intéressant de voir Thuram avec les 10 titulaires possibles que le contraire.
Ouais, d'autant que je pense qu'on est sur les 4 derniers mois de Giroud en équipe de France. Il y a quand même quelques…
Sans doute.
Il y a quand même quelques chances. Donc voilà, je pense que la logique, Thuram répond aussi à ça. Après, moi, je peux comprendre que tu te passes de Giroud sur les matchs où tu alignes ton équipe type… Quand t'as un Karim Benzema ou quand mec… Là, Giroud, je trouve ça un peu dur pour lui de passer derrière Marcus Thuram. Mais compte tenu de ses états de service, compte tenu de ce qu'il a apporté en tournoi et ailleurs…
Je suis
se rappeler de sa Coupe du Monde quand même.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que t'as plus besoin de voir Giroud avec Mbappé et compagnie ou Thuram? C'est Thuram qui pose question.
Tu vois. Dans ce cas-là, t'as pas besoin d'Mbappé, t'as pas besoin de Maignan, tu peux faire jouer Brice Samba.
Ah oui, mais là, ça veut dire
ce que je veux dire.
Oui, mais là, c'est plus l'équipe titulaire du coup.
Oui.
Tu vois. Et au fond, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais en fait, on ne fait que décrire. Je pense qu'on en parle depuis 2 ans ou un peu plus, même avant. C'est la réalité d'Olivier Giroud d'être toujours un peu en balance. Et force est de constater que ça marche pas si mal.
Oui, ça marche pas si mal. On verra l'Euro.
Qui marquera contre le G, et puis voilà.
Ce qui est sûr, c'est que lui, il n'est jamais affecté par le statut que lui donne Didier Deschamps. Qu'il soit numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, il a le même rendement.
C'est ça.
On passe au deuxième sujet, Maxime, avec Hervé Renard et le président de la FFF, M. Diallo, qui nous a laissé entendre que le mandat d'Hervé Renard s'achèverait après les Jeux Olympiques, à la tête de la sélection féminine française. On n'est pas tombé de l'arbre, loin de là. Et c'est peut-être aussi ce qui pose problème, qu'on ne soit pas tombé de l'arbre. Maxime, qu'est-ce que ça t'inspire, ce mandat d'un an et demi d'Hervé Renard?
Bah, ça ne m'inspire pas un énorme étonnement, parce que déjà, je pense, alors j'aurais peut-être l'air malin si les Bleus sont champions olympiques, je pense que Renard n'a pas été nommé que pour de bonnes raisons. Et ça, oui, je ça le disais depuis le début. Ouais, ouais. C'est-à-dire que oui, ok, on écrivait, on racontait ici et là, oui, pour l'image des Bleus, c'est un sourire, Corinne Diacre, elle ne sourit pas, etc. Et après tout, c'est vrai que les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous espéré. Enfin, en même temps, peut-être que cette équipe plafonnait aussi, on ne peut pas savoir. Voilà. En tout cas, ok, il y a eu l'affront des joueuses, ils ont changé pour avoir Hervé Renard, beaucoup plus souriant, image positive, besoin de faire parler de l'équipe de France féminine. Ok, mais moi, ce n'est pas ce que j'attends en premier d'un sélectionneur, c'est qu'il fasse gagner l'équipe. Et je pense, en aparté, que la décision aussi de retirer Sylvain Ripoll, qui lui avait plafonné sur les résultats, pour Thierry Henry, c'était un peu aussi l'image, parce que, je le répète, avec tout l'énorme respect que j'ai pour Thierry Henry, sa carrière d'entraîneur jusqu'ici, ça n'a pas décollé. Donc voilà, il n'y a pas des garanties gigantesques. Il y a plus de garanties d'ailleurs sur Renard, potentiellement, que sur Henry.
Il vaut mieux aller au JO avec Renard et Henry qu'avec Diacre et Ripoll, quoi, en gros, en termes d'image.
En termes d'image.
Non, je te parle que d'image, je ne te parle pas sur le banc.
Voilà, bon, ça, c'est pour la parenthèse. Maintenant. Ce qui m'embête, moi, dans la décla de Philippe Diallo mercredi,
qu'on va rappeler,
en marge du tirage au sort, tu la lises ?
Ouais, vas-y. Vas-y.
Hervé a un contrat qui s'arrête après les JO fin août 2024 et il a fait savoir qu'il n'était pas certain du tout qu'il reste après. En gros, après, regarde l'avenir. Bon, quand on dit qu'il n'est pas certain de rester, c'est qu'il va s'en aller. Voilà. Parce qu'il a mieux aller, sans doute, à ses yeux, à voir ailleurs, de retourner sans doute dans le football masculin. Déjà, moi, j'avoue que l'épisode de la Côte d'Ivoire m'a quelque peu chiffonné. On l'a dit ici à l'époque. À quel moment le sélectionneur d'une équipe nationale demande à aller diriger une autre équipe nationale pendant qu'il prépare un Final Four de Ligue des Nations? Au mieux, c'est une maladresse. Au pire, c'est un gros manque de respect pour le football féminin. Et je trouve que là on brouille vraiment les pistes. Je le redis, vous imaginez Didier Deschamps dire à la FFF, tiens, je vais aller entraîner l'équipe féminine d'Espagne pendant 3 semaines. Je pense que ça, déjà, un, il ne l'aurait pas fait, et deux, l'ouverture n'aurait pas été donnée par la FFF. Et la FFF est fautive aussi là-dedans d'avoir ouvert la discussion. Je veux dire, vous avez quelqu'un sous contrat qui prépare une échéance importante. La France est allée en finale du Final Four. C'est la première fois que les Bleus allaient en finale d'une grande compétition, enfin, d'une compétition. Je trouve que c'était très malvenu de sa part. Donc moi, je ne suis pas étonné. Je suis un peu déçu parce que je ne suis pas sûr que ça serve au final le football féminin, non. Une pige comme ça. Ah. Hormis s'il y a titre.
Voilà,
mais
ça.
Bon, là, oui. Mais on a vu la Coupe du Monde, ça n'a pas forcément servi.
Ouais.
En fait, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ouais, simplement.
Alors voilà, moi, le problème, c'est que justement, j'ai l'impression qu'Hervé Renard se sert de cette équipe de France comme d'un moyen et pas d'une fin. C'est-à-dire que c'est un peu comme Will Steele avec le Stade de Reims.
Ouais, ça fait un peu ça.
C'est il sert
d'une vitrine.
D'une vitrine, il sert de l'équipe de France comme d'un club pour rebondir quoi globalement. Ça me fait mal pour l'équipe de France, pour la marque équipe de France, ça me fait mal pour le football féminin encore une fois qui se retrouve face à ses limites et dont on se rend compte finalement que le personnage Hervé Renard est plus gros que la sélection française féminine et est plus gros que le football féminin. Ça rappelle juste ça, en fait. Et donc, ça place finalement ces deux entités, que ce soit le football féminin ou l'équipe de France, face à leurs limites. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette mission commando, parce que ça sera c'est un one-shot, en fait. Il reste un an et demi, il bâtit assez peu, finalement, parce qu'à l'échelle d'une sélection, un an et demi... Alors, à l'échelle d'un club, c'est beaucoup. À l'échelle d'une sélection, est-ce que ça place l'équipe dans les meilleures conditions avant les Jeux Olympiques à Paris? Je ne suis pas sûr. Est-ce que le fait de dire que l'entraîneur se cassera à l'issue du tournoi, ça met les joueuses dans les meilleures conditions? Généralement, ce qu'on voit avec les équipes masculines, c'est que ça a tendance à partir un peu en cacahuète quand le sélectionneur annonce qu'il partira à la fin du tournoi. Donc voilà, moi c'est toutes ces choses-là. Et puis tu as dit oui, effectivement, l'épisode Côte d'Ivoire, en fait c'est des signes qui sont pas top pour l'équipe quoi. Et j'espère vraiment que ça marchera aux Jeux Olympiques. Sinon on risque d'avoir quand même un retour de bâton sur l'épisode Côte d'Ivoire, sur le fait qu'il s'en aille et sur... Je suis pas sûr que ça lui fasse que du bien. Et alors qu'à la base moi j'étais plutôt charmé, c'est-à-dire que je pensais que on allait avoir un entraîneur d'équipe masculine qui allait s'investir dans le football féminin à long terme, qui allait construire quelque chose, qui allait faire grandir cette équipe de France. Ouais. Peut-être qu'il la fera grandir. Sur un an et demi, j'ai un tout petit doute quand même.
En fait, c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille en relisant ces déclats. Je n'avais pas fait attention à l'époque. C'est en gros son amour des grandes compétitions. Il est une sorte de... Alors, pas mercenaire de changer d'équipe tout le temps, mais il a besoin des grandes compètes. Enfin, on voit que c'est ce qui l'intéresse. Voilà. Et là, il y a eu aussi la perspective, et on le disait à l'époque, c'était sûrement le premier entraîneur à faire une Coupe du Monde masculine en novembre 2022, une Coupe du Monde féminine, en juillet 2023, et les JO l'année d'après. Donc en gros, en un peu plus d'un an et demi, il a eu toute l'adrénaline qu'apporte une sélection nationale, et on sent que ça lui a plu. Et après, on peut le dire, je faudrait lui poser la question, est-ce que Hervé Renard serait venu s'il n'y avait pas eu les JO en France? On connaît à peu près tous la réponse. Voilà. Là, il y a un effet d'aubaine d'être champion olympique. C'est un peu... Tout le monde se réveille sur le football maintenant parce que c'est à Paris, parce que ça fait plaisir, parce qu'on peut aller gagner une médaille. Voilà, donc je trouve que... J'espère que ça fonctionnera, évidemment, parce que on a tous envie que l'équipe de France féminine gagne les JO et ou fasse médaille. Mais j'ai un doute, comme tu l'as dit, hormis un flamboyant exemple qui s'appelait Aimé Jacquet, qui avait annoncé avant la Coupe du Monde qu'il partirait... C'est quand même assez rare parce qu'il faut tenir évidemment les effectifs, leur dire, expliquer que vous ne serez pas le prochain sélectionneur, donc vous perdez
même
un peu d'autorité.
En termes de loyauté vis-à-vis des filles.
Ah oui, oui, oui.
En termes de loyauté.
Mais attention, retour de bâton aussi sur l'équipe de France parce que c'est les filles qui ont impulsé aussi départ de Kohandiak.
C'est vrai. Et mais si l'expérience se passe mal, à un moment, c'est elles qui paieront, qui paieront l'addition sans doute. On passe au troisième sujet, Maxime.
On passe au troisième
sujet. Et pour ça, on a besoin d'un troisième larron.
Et qu'on va accueillir Quentin Guichard.
Alors, Quentin, on est content de te recevoir. Tu es un peu l'esthète de la rédaction.
Content.
C'est l'esthète de la rédaction d'Eurosport.
Un petit peu, ouais.
Un petit peu.
Je suis la caution...
Esthétique.
Esthétique, voilà, ouais, tout simplement. On ne peut pas compter sur vous.
On peut surtout pas compter sur Max.
Ah, ça.
Et donc, on a choisi de classer les 5 plus beaux maillots de l'histoire de l'équipe de France. Tu vas nous donner en exclusivité ton top 5. Je crois que déjà, c'est une exclu mondiale.
C'est une exclu. Ouais. Alors,
le Times était dessus. Tu avais le Los Angeles.
J'avais le Herald Tribune qui a fait le forcing. Ouais. Mais je me suis dit, non, allez, Eurosport, c'est la famille. Ouais. Donc, je vais garder mon top 5.
Ah, il y avait de la demande, alors.
Il y avait beaucoup de demandes. un classement très compliqué. Alors, on a chacun fait notre petit classement. Ouais. Hein.
Alors, est-ce qu'on donne chacun notre top 5 ou on fait le 5 chacun, le 4 chacun?
Non, j'irai plus sur son classement.
Ah ouais, d'accord.
Et on le discute.
Voilà.
Parce que tu vas voir, peut-être que dans son 1, ce sera le même que quelqu'un. Il n'y aura pas besoin de refaire. Ça va être chiant. Je pense qu'on est peut-être sur un sujet chiant.
Ouais.
Tu sais, quand un professionnel.
Déjà, lui est chiant.
Quand un professionnel.
Déjà, ça devient chiant. Tu vois, là, ta phrase, ton début de phrase, il est chiant. Là, il est chiant.
Quand un professionnel des médias te donne des conseils, il faut savoir l'écouter. Voilà, donc, Maxime Lupi, quand il te dit on fait ça, on le fait.
On fait briller. Moi, j'écoute les fous du volant. C'est comme ça qu'ils ont fait. Moi, j'ai envie d'écouter les spécialistes. Stéphane Vrignot, c'est ce qu'il fait.
Bon, allez, vas-y. Donne-nous ton top 5.
Bon.
En numéro 5.
Alors, avant toute chose, je vais y aller, mais. Un classement pas facile du tout.
Ouais. Ça, c'est pour dire qu'il va être bien merdique.
Non, ça va pas être merdique, mais il a fallu faire des choix.
Tu cherches pas des excuses, mais c'est le principe d'un classement.
Top 5, mon numéro 5. Si je vous parle d'un match qui a eu lieu le 17 novembre 1993, ça vous rappelle pas des bons souvenirs?
Non.
Bon.
Bah, même le maillot m'en rappelle des moyens.
Moi non plus, il est dégueulasse.
Eh bah, franchement, moi, c'est mon numéro 5. Le maillot de 1992 utilisé lors de l'Euro, bien sûr, et donc lors de ce fameux match inqualifiable. France-Bulgarie, alors on a un très beau bleu avec des lamelles.
Les lamelles sur les deux.
Voilà, sur les deux épaules.
Dégueulasse, ouais.
Très très beau maillot. Ouais. Très joli. Et petite anecdote, c'est sur ce maillot-là sur lequel nous avons vu apparaître les noms pour la première fois. Des joueurs.
Ok.
Lors de l'Euro 92.
Ok, on s'en
tape. Oui, tout à fait. C'est la première année. Première compète à nom et première compétition à nom, c'est 94. Alors,
ça va être long.
Justement, ça va me permettre de rebondir. Tu vois,
lui, il n'est même pas dans mon top 20.
Alors, moi, je ne l'ai pas mis, mais j'aimais beaucoup celui de 90-92. Avec les blancs. Et c'était un template qui était seulement de mémoire, je crois, que pour l'équipe de France, celui-là. Je crois pas qu'il y avait l'autre template. Celui-là, il y avait la mode des templates avec les trois bandes et la fameuse Olympique de Marseille ou Liverpool qui avait. D'ailleurs, la Bulgarie aussi avait
tout
le maillot.
Tout le monde l'avait en fait
dans
ce maillot.
Ouais, non,
super du coup.
Non. Le template Olympique de Marseille, je parle. C'est pas le même.
Oui. Non, c'est pas le même.
Donc, oui, j'aime bien. Alors, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est le bleu. Parce qu'on va le voir au fur et à mesure de ce classement, les bleus sont pas toujours.
Ils sont pas toujours
respectés et toujours réussis.
On va voir. Ça dépend.
Mais spoiler, il n'est pas dans mon top 5 non plus.
Ouais, moi, il n'est pas dans mon top 50.
Allez, mon top 4.
Oh non.
Ah bah oui.
Ah bien sûr.
Bah, si.
Top 4, but en or, très égay.
Ah, oui.
Et avant ça, même Will Thorne. Le maillot de l'Euro 2000, la bande rouge, l'horizontale rouge, un col magnifique. Bah, en fait, c'est ce qu'on se disait avant, en préparant nos classements, c'est qu'il y a une histoire aussi de succès.
Exactement. Voilà.
Il y a une histoire de succès sur ces maillots.
Oui.
Alors, moi, ce maillot, il me rappelle que des bons souvenirs. Et puis, j'aimais beaucoup l'association avec le flocage. Enfin, je trouve que tout allait très, très bien.
Un peu large, moi, je trouvais.
Justement, tu m'as vu avec
Alors, justement. Non, mais vraiment.
Il est hyper bien coupé et il reste aujourd'hui très bien coupé parce qu'il tombe bien sur les hanches et sur le haut des fesses. Non, mais vraiment, c'est un maillot très, très bien coupé, très, très beau. Parce qu'en plus, on va le répéter plusieurs fois. Un maillot qui est beau, c'est aussi un maillot qui gagne bien souvent. Celui-là, pour le coup, il gagne. J'aimais beaucoup la version blanche.
Ah, moi, je préfère la version blanche aussi.
Qui était assez magnifique.
Ouais.
Et vraiment, je trouve que, comme tu le dis, le bleu est beau. Il y a la référence avec la barre rouge à 98. Ils ont enlevé les trois barres blanches pour changer. Et la coupe du maillot est vraiment de qualité et reste très actuelle, je trouve.
Ouais. C'est un changement dans la continuité.
Non, mais c'est vrai parce que par rapport à 98, il est beaucoup plus large.
Nes de la Fressange là-bas.
Bah non, mais on a dit qu'on parlait des maillots. Bah, dis-nous ce que t'aimes pas dans ce maillot.
Moi, ce que j'aime pas, je le trouvais trop large. Et je trouvais qu'il manquait aussi Il manquait un petit peu d'originalité, quoi. C'est-à-dire que j'en vois d'autres dans ce maillot, tu vois ce que je veux dire? J'en vois d'autres.
Non, c'est template d'équipe de France.
Oui, mais je vois le 98, je vois même un petit peu de 84, tu vois.
Ah bah oui, forcément.
Bah,
de toute façon, la barre rouge d'Adidas va rester quasiment jusqu'à la fin.
Ouais. Mais moi, les maillots Adidas, c'est pas mes préférés. Spoiler, mais bon, bref. Ouais.
Merci. Allo Nike, vous pouvez lui offrir des maillots.
Non, ils ont retenté le coup de la bande rouge 4 ans après, hein, on s'en souvient, avec une bande rouge un petit peu plus...
À l'Euro ?
Ouais,
elle était pas
terrible. Et puis même effacée.
Je crois que l'Euro 2008, la bande rouge est comme ça.
Ouais, tout à fait. C'était pas une réussite cette période. Bref.
Numéro 3, on arrive sur le podium 3, et là on passe aux choses sérieuses.
Là on arrive.
J'aimerais qu'on en ait en commun un moment quand même.
D'accord.
Voilà.
Attention.
Vas-y.
Numéro 3.
Oui.
Oui,
là oui.
Le maillot qui pour moi reflète l'élégance à la française.
Bien
voilà,
sûr.
La classe, l'élégance. Le petit col blanc de ce maillot de la Coupe du Monde 2014.
C'est mon numéro 3 aussi.
Ce bleu.
Voilà, tu vois. Ce bleu foncé.
Ce bleu nuit.
Bleu nuit, voilà. Ouais. Pour illuminer le ciel de Rio de Janeiro et voilà, compagnie.
Pas trop illuminé.
Pas de ouf.
Ouais, non, pas de ouf.
Non, mais la coupe est très cintrée, on s'en souvient. Moi, je vois ce maillot en photo, je vois Olivier Giroud dans ce maillot.
Ah, moi, je vois Griezmann.
C'est aussi au niveau des fesses, je pense que tu dis ça. Cintré, tu vois ce que je veux dire? Parce que il tombe bien, mais c'est important, un maillot qui tombe bien sur les fesses et sur les shorts.
Tu dis pas que Griezmann a des grosses
fesses?
Il a des bonnes fesses.
Il est loué pour ses fesses.
C'est bien toi
l'Euro 2016.
Tu dois à sa grand-mère d'ailleurs.
Exactement.
Et donc ce maillot, finalement, qui rappelle pas forcément de bons souvenirs.
C'est pas si mal.
Mais en termes de style, en termes d'élégance. Et puis il y avait le flocage aussi qui allait très bien. Voilà. Alors, entre parenthèses. Tu voulais parler de
non,
ce
mais...
maillot de 2014 ?
Ouais, parce que moi, c'est le bleu. J'aime bien un maillot bleu. Voilà. Là, c'est pas bleu pour moi. C'est quasiment noir. J'aime beaucoup le noir, mais quand on s'appelle les bleus, on joue en bleu. Et je préférais, je en parlerai tout à l'heure, dans mon top 5, le premier Nike. Celui de l'Euro 2012, avec le col un peu Mao.
Si je peux me permettre, le deuxième Nike.
Ah oui ?
Premier Nike ?
Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Ouais. Bon.
Je parle du premier Nike puisque c'est celui de 2011 parce que en fait c'est un maillot à col donc je vais faire très rapidement. Je suis très maillot à col moi.
Mais t'as mis deux ex-aequo, un ex-aequo là.
Là c'est 2014 mais c'est pour la petite
Pour l'anecdote.
Pour l'anecdote. Ouais,
pour manger le micro, pour manger le temps.
Voilà exactement. Je trouvais que le maillot de 2011 était très classe mais comme il a jamais été utilisé en compétition, il avait la particularité de ne pas comporter de numéro sur la face avant. Voilà.
D'accord.
C'était pour l'anecdote.
Et là on est à une période quand même entre 2008 et 2012 où Adidas qui était en fin de contrat sortait un maillot tous les ans l'équipe de France, c'était infernal et notamment celui 2009 ciel est improbable, ils avaient même osé un maillot rouge
en extérieur
tout à fait
2008
catastrophique
horrible.
Et Nike quand ils ont pris je pense qu'il y a eu 5 maillots de l'équipe de France en 5 ans et là pour le coup c'était un peu trop.
Numéro 2
alors c'est le tout dernier, c'est le petit dernier. Un maillot bleu roi comme on pourrait l'appeler. Alors une belle référence,
il est sublime, c'est mon numéro 1 moi.
De deux grosses références que Nike met en avant, c'est la référence aux années 60, notamment 66 puisque le col tricolore reprend le modèle de la Coupe du Monde 66.
Belle réussite, 66.
Et puis, référence aux années, fin d'année 70, début année 80, mmh. avec ce col. Ce coq gigantesque, ouais. Qui est très surprenant et qui casse complètement les codes de ce qu'on fait maintenant. C'est très surprenant d'ailleurs que l'UEFA, tu sais, ils sont très rigoureux sur les, ouais, sur les maillots, sur les règles,
ça,
etc.
C'est une bonne question, je ne sais pas s'il y a une taille de logo.
Alors je crois que la FIFA impose une taille de logo, d'accord, mais que l'UEFA doit être un petit peu plus...
Donc tu ne fais pas de Coupe du Monde avec ce maillot.
Bah, je ne pense pas que tu puisses faire la Coupe du Monde, mais ça tombe bien, c'est le maillot de l'Euro.
Et le bleu est beau aussi. Hein,
le bleu, il est magnifique.
Oui, et... C'est le plus beau des bleus pour moi.
Ouais.
Je suis d'accord sur le bleu. Moi, je ne l'ai pas classé, celui-là, je le trouve pas mal, mais tant que je ne le vois pas, parce que je ne l'ai pas vu en vrai, je veux les voir sur les joueurs, mais c'est vrai qu'il est pas mal. La référence, voilà, des années 50-60 avec le gros coq, et on peut parler aussi du maillot blanc, qui est une référence absolue au maillot 82. Je suis un peu moins fan du blanc, en revanche, mais je trouve qu'il est pas mal, mais je ne l'ai pas classé, parce que tant que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas d'avis.
Le blanc, moi, j'y vois deux références. Je vois 82... Et je vois 2006, l'extérieur 2006, avec les bandes en dégradé qui vont...
Oui, c'est pas faux. Oui.
Tout petit peu.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Et donc, ce maillot-là, je suis très content qu'il nous le propose, parce qu'en 2019, pour le centenaire de la Fédération française, ils avaient sorti un superbe maillot qui reprend en fait quasiment les mêmes codes, avec un coq doré, le bleu. Bon, là, il y avait un col différent, mais s'il n'y avait pas eu ce maillot de 2024, je pense que le maillot de 2019 du centenaire aurait été mon top 2. Voilà.
Qui avait été vendu
en édition
limitée.
Extrêmement limitée. Ouais.
Et moi, c'est mon top 1, je me réconcilie avec toi, Quentin. Parce que
c'est
vrai? Le bleu, rien que pour le bleu.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, le bleu, je trouve magnifique. Et en plus, il y a un gros côté rétro qui est assumé. Et on aime le rétro,
on adore le rétro, le vintage.
Bon, pas trop de surprise pour le numéro 1, j'ai l'impression, je pense qu'on a le même.
Alors, moi, numéro 2. Il y a une subtilité.
Mais le mec, il classe 12 maillots.
Non, j'ai classé un maillot en top 1.
Qui est donc
le maillot de 1984
l'euro, ouais.
De l'euro avec cette bande et ce motif Adidas magnifique, avec ce coq, on y revient, hein, ce coq énorme des années 80. Et puis surtout, c'est le premier maillot Adidas et de l'équipe de France qui symbolise la gagne. Voilà, enfin un trophée pour ce maillot. Et tellement mythique ce design que la décennie suivante, pour le mondial à domicile, évidemment, vous le connaissez tous, la réinterprétation, la réédition, ou en tout cas l'inspiration de ce maillot de 84 pour le maillot tout aussi victorieux de 1998. Pour moi, ce design, et que ce soit 84, que ce soit 98, c'est une merveille. On voit ce maillot, on sait que c'est les Bleus, on sait que c'est la France. Il rayonne, c'est la France qui gagne, c'est la France qu'on aime, c'est la France vivante.
C'est la France.
C'est la France qu'on aime. Vive la France, vive la République.
Et vive la France, merci.
Votez Guichard.
et c'est pas le premier qui fait les bandes horizontales? Je crois que les bandes horizontales apparaissent à ce moment-là, me semble-t-il.
C'est possible.
Je pense que c'est plus sur vertical habituellement.
Et pour le coup, ces bandes horizontales, elles sont complètement iconiques. Donc tu as à la fois l'original, c'est-à-dire lui il ne s'inspire de rien, c'est-à-dire il tente quelque chose, il tente une création, et en plus tu gagnes avec et t'inspires ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, c'est
Regagne en plus derrière.
Pour l'anecdote, mythique. La première fois que je l'ai vu, c'était en téléfoot, ça devait être au mois d'avril, juste avant le dernier match des Bleus 98. Et j'étais un peu déçu, parce que je me dis, ils ne sont pas foulés.
Celui de 84?
Non, 98.
Ah, 84. D'accord.
Ah non, mais les gars,
excuse-nous. 84, t'avais 12 ans déjà.
84, t'étais là quand même.
Non, j'étais trop petit. Bon. Et je m'étais dit, ils ne sont pas foulés, ils ont fait une réédition de 84. Je m'étais trompé, parce que aussi la victoire, le Rambo. Mais le bleu est beau, le rouge fonctionne bien. La coupe n'est pas hyper moderne, mais il est portable encore. C'est un maillot qui reste portable.
On sent que la coupe, ça...
Non, mais ça change. Quand tu mets des trucs trop larges ou trop... Ouais. Et sans avoir une coupe moderne, je trouve qu'il se démode beaucoup moins que d'autres maillots de la même époque. Puis voilà, il y a le côté mythique. Un maillot qui fait gagner, c'est un maillot beau. J'aime bien le blanc aussi.
Ah, le blanc, il était magnifique.
Voilà. Mais je trouve que l'association vraiment 98-2000, moi, alors pour vous révéler, c'est dans mon top 3, il y a 98 et 2000, parce que voilà, en plus, c'est maillots qui gagnent et je trouve que c'est des très beaux maillots et des très beaux bleus pour le coup.
Et pour l'anecdote, Maxime, toi, il me semble que tu as le 98 sans étoile.
Ah,
non?
Eh oui.
Et voilà.
Et voilà.
Mais je te fais briller, moi, je suis là pour faire briller.
Je n'ai pas attendu d'avoir l'étoile pour l'acheter. Je suis un vrai, je l'ai acheté le matin de France, Arabie Saoudite, j'allais au Stade de France. Je l'ai acheté sans étoile. Je peux dire que je n'ai jamais racheté celui avec étoile. Et je parade avec mon maillot sans étoile.
T'as un flocage sur ton maillot ou pas?
Non, mais j'ai la signature d'Emmanuel Petit. Mais ce qui est dommage, c'est que je joue au foot avec, donc je peux dire que la signature, elle est un peu flinguée.
J'ai des maillots signés et j'y touche pas.
Non, mais ça me fait suer, j'aime bien le porter. Donc, non, mais c'est un blasphème absolu. Et pour l'anecdote, j'ai aussi un maillot de rugby signé de Nouvelle-Zélande, John Alomou. Mais celui-là, je le porte pas parce que je joue pas au rugby.
Au rugby, je te verrai.
Et ce serait plutôt dangereux, voilà. Alors moi, je vais vous donner mon top 5.
Vas-y.
Donc numéro 1, c'était 98, celui-là, donc les bleus.
Donc on est d'accord.
Ah oui, on est complètement d'accord. Ouais. Mais il y a aussi, j'avoue que c'est pas forcément le plus esthétique parce que j'hésitais avec 2000. Mais le côté sentimental, voilà, 98. Un que j'adore et que tu n'as pas mis dans la liste et qui a un bleu complètement différent, c'est 1986. Alors, c'est du coton, c'est des gros maillots. Ouais. Coupe du monde 86 au Mexique, bleu ciel. Et puis, je trouve un design très épuré avec juste des bandes là. Mais qui est très beau, c'est le dernier de la génération Platini, c'est France-Brésil. Le bleu est audacieux, mais à l'inverse de certains qui sont beaucoup plus foncés. Et dans les plus foncés, j'ai mis celui de 2022, parce que je l'aime beaucoup, celui de la Coupe du Monde 2022.
Avec le coq doré.
Ouais, j'aime beaucoup le doré. En plus, Martin m'en avait offert un, Floki Griezmann, que je mets régulièrement. Voilà. Et je trouve que la coupe est pas si mal, même si serrée et qui laisse peu de place à l'embonpoint, donc faut faire gaffe. Ouais. Oui, mais c'est important un maillot bien coupé. Et c'est pour ça que j'aime bien 2000 parce qu'il est serré sans être trop serré. Tu vois, tu peux avoir un petit excès sans que ça se voit trop. Mais j'aime beaucoup le 2022 et j'ai mis le 2012 parce que j'aime bien ce bleu un peu foncé. Ouais. C'est un peu les mêmes en fait en quelque sorte. Des bleus. C'est pour ça que
la marinière bleue là.
C'est ça.
Je trouve que 2014 est trop à mes yeux, il est trop foncé pour moi.
Moi, ce que je reproche à la tenue 2012, c'est qu'on jouait tout en bleu.
Ah bah oui, alors bah ça, et d'ailleurs j'ai pas fait attention, est-ce qu'on aura short blanc et chaussettes
rouges? Short blanc et chaussettes rouges,
voilà, ça c'est la classique.
Tu t'intéresses quelqu'un à mon top 5?
Non,
alors bah, tu vois, Martin va nous faire le top des chaussettes. Alors,
en 1, 2024.
Ok, bon le mec, ça c'est... Ouais.
Okay. Mais quoi mais,
ah, c'est la culture de l'instant, c'est la culture de l'instant.
Mais arrête, tu l'as mis numéro 2, toi, tu te fous de moi quoi.
Et à deux jours près, il mettait 2026.
Voilà. En numéro 2, 84.
Ah ouais, je suis étonné toi, tu vois, j'aurais pas pensé.
Ah bah si, 84. En 3, 2014, le petit col blanc. Mmh. Voilà, mais ça, c'est l'élégance, Maxime, il ne peut bien pas sûr comprendre. Voilà, lui, c'est un bourrin, lui, les résultats. On a gagné numéro 1, on a gagné numéro 2. Nous, c'est l'élégance. Voilà, bien sûr. Voilà, l'élégance, le raffinement.
Je dirais raffinement. En tout cas, j'ai une confirmation sur cette émission. Martin a des gouttes.
C'est voilà. En numéro 4, France 98. Voilà, pour faire plaisir, pour avoir Maurice à la fin de l'année, pour faire plaisir à Maxime. Et en numéro 5, un maillot qu'on n'a pas encore cité, c'était celui de l'Euro 2016, que j'aimais beaucoup. Avec un bleu un peu pétard.
Ah ouais, mais non. Les manches...
Non, moi j'aimais bien.
Non, c'est pas possible.
J'aimais bien. Et puis aussi, parce que c'est un bon petit souvenir personnel.
Ah oui, non, mais ça oui. Mais ça,
non, mais puis à limite, je vous emmerde aussi. Donc,
c'est un bon souvenir, oui. C'est la défaite en finale contre le Portugal.
Non, mais c'était une belle compétition, j'avais bien aimé. Et puis moi, je vois Griezmann là-dedans avec ses cheveux longs, sa célébration.
Avec ses cheveux longs? Avec ses cheveux courts?
Oui, cheveux courts.
J'ai compris, il s'est trompé de maillot.
Sa célébration, le doublé face à l'Allemagne, voilà, c'était un bon moment, donc je l'ai mis en numéro 5.
Justement, attends, je vais revoir un truc sur ce maillot. Voilà, moi, ce que je reproche à ces maillots-là, c'est comme la Coupe du Monde 2018.
C'est bicolore.
Ah, c'est les manches, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est le contre-exemple d'un beau maillot, un maillot devient beau quand il gagne, c'est 2018.
Ouais. C'est maillot, là, le problème de ce maillot-là, en plus, c'est que tout le monde l'avait. C'était un maillot que beaucoup d'équipes avaient avec les petites barres.
Oui, c'est un template. C'est un template Nike. En fait.
Je crois que Nike maintenant ne fait plus de template globaux. C'est vraiment un template par équipe, je crois.
En tout cas, sur les sélections nationales.
Ouais, sélection, pardon.
Mais en 2018, c'était pas le cas.
Non, en 2018, effectivement, beaucoup d'équipes. Mais 2016, c'est pareil. Hein, beaucoup d'équipes avaient ce maillot-là avec les manches un peu bicolores. Enfin.
Non, mais 2018, c'est un maillot raté, mais qui gagne.
Bah ouais, c'est ça. C'est un peu particulier.
Oui, je pense quand même que je préfère le 2016 au 2018.
Ouais, je pense.
2018, c'est trop appuyé, il y a espèce de ligne aussi bizarre. Alors, question subsidiaire.
On adore les questions.
Ton maillot préféré ever d'une sélection nationale, est-ce que tu en as un comme ça qui vient?
Ouais, et je pense qu'on a le même.
Ouais, je pense qu'on a le même.
Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé. C'est sûr, mais c'est sûr. Et en plus, c'est d'actualité. On est d'accord?
Ah oui, c'est d'actualité.
Ok, c'est d'actualité. Ouais. Allemagne, on y va. Allemagne 1990.
Voilà.
Ouais. Et aussi bien le domicile que l'extérieur.
Ouais, exactement, le vert.
Ah, le vert avec le motif. Ouais,
et j'ai une forte sympathie, c'est pas sympathique, pour Pays-Bas 88 aussi.
Bah ouais, qui reprend un peu ce motif-là.
Qui est pour le coup un template complètement à part. Enfin, l'Allemagne 80, à l'extérieur, et qui est plutôt beau. Voilà. C'est pas toujours le cas des maillots. J'aimais beaucoup l'Allemagne noire, là. La Coupe du Monde 2018, je crois.
Ah oui, tout à fait.
L'extérieur très noir, le logo noir. Ouais.
Coupe du Monde 2022, je pense.
Non, c'est 2022, c'est le dernier. On voyait mal le logo.
Oui, voilà, exactement. Mais l'Allemagne, ouais, c'est vrai que j'aime bien les maillots anglais parce qu'ils sont très classiques. Ouais. Mais l'Allemagne 90, il y a ce côté iconique. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir pourquoi un maillot devient iconique.
Alors non, mais ça, c'est...
Faut qu'il aille un peu loin quand même.
Oui, mais en plus, tu pourrais dire c'est l'Allemagne, donc l'Allemagne, nanana. Ben ouais, mais sauf que c'est le maillot de l'Allemagne, il est iconique.
Je pense qu'il y a un mix de plein de choses. Il y a un mix des joueurs qui le portent, de ce que font les joueurs dans ce maillot, effectivement. Par exemple, en Argentine, c'est très paradoxal. Le dernier but de Maradona,
ouais,
en 94 à la Coupe du Monde, ouais, il est marqué dans le maillot extérieur.
Catastrophique, le maillot violet.
Qui est catastrophique.
Le template de l'équipe de France.
Ouais, exactement, avec les diamants, ouais. Et ben, c'est devenu un maillot mythique.
Ah ouais.
C'est assez fou. Et toi, Martin, ton maillot préféré de sélection?
Il va nous dire France 2022, qu'il n'a pas mis dans son top 5.
Non, sur les derniers, j'ai bien aimé l'audace du
Nigeria 2018.
Ah oui.
Nigeria 2018.
Vraie réussite.
Ouais, il est fantastique.
Et Nigeria a souvent des très beaux maillots.
Oui, ouais. Oui. Ah, ouais. Et puis, attends, non.
Excusez-moi. Vas-y, tape du poing sur la table.
Cameroun 2002.
Ah, sur les 100 manches.
Ou les... Non, les griffes.
Ah, les griffes. Alors, oui, 2004.
Ah, c'est 2004.
Ouais, les griffes, ouais,
les griffes, c'est incroyable.
Les griffes, c'était incroyable.
Incroyable. Ah, ouais. Donc, le Puma Cameroun 2004, celui-ci, il est à la maison. Je ne peux plus le mettre parce que j'ai pris 20 kilos. Il pardonne pas en plus. Mais avec les petites griffes de lion,
ça,
et
c'était
le sang
incroyable.
Ouais.
Ça, c'était vraiment fou.
Ouais,
ouais, effectivement.
Incroyable.
Les griffes.
Non, ouais, non, mais là, d'accord. On a perdu.
Parce que j'imagine, les griffes, c'est ouvert. C'est ouvert, non?
Oui,
bah en fait, oui, c'est une fausse déchirure.
Ouais, une fausse déchirure.
Ah oui, mais y a pas, tu dépasses pas, non?
Non, j'ai pas les bourrelets qui dépassent, si c'est ça ta question, Maxime. Et vous vous souvenez du Cameroun qui avait fait short, maillot, ouais, tout,
oui,
ensemble?
Ouais, ça, non. C'est pour
là, ils étaient allés trop loin. Ouais. Mais au moins, il y a de l'audace.
Non, mais voilà, à un moment, c'était une Puma, non, qui a fait le maillot.
Ouais, Puma, ouais.
Je crois qu'il y a de l'audace, mais au moment,
entre 2000 et 2004, ce Puma avec le Cameroun, effectivement, avait tenté beaucoup, ouais, de choses.
Mais ouais, c'est vrai que les maillots du Nigeria, globalement, sont, ouais, souvent magnifiques.
Bah, surtout ces dernières années, depuis que Nike a repris la main. Depuis 2018,
le vert,
c'est
le vert,
vraie beauté.
Ou le Colombie 2018 extérieur bleu avec le, oui, logo orange fluo, là, oui, il est très très
joli. Ma fille, là, je crois, il est très beau,
ouais, très beau.
On pourrait en parler des heures.
Hein. Bah,
oui.
Ah oui, bah, c'est une passion, ouais, les maillots.
Ah,
ouais.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, savoir comment réussir un maillot, ce qu'il faut savoir, c'est que Nike bosse déjà sur le prochain maillot de l'équipe de France.
Bien sûr, ouais. Ah oui, ils ont toujours 2 ans d'avance.
De devancer un peu la mode, de trouver, ouais, ça c'est un truc qui me fascine. Et que Nike... que l'Allemagne passe chez Nike. Alors moi, c'est le truc qui m'a le plus bouleversé
moi, les dernières 24 heures. J'en ai pas mangé hier. Ah bah voilà, ouais. J'en ai pas mangé hier.
Tu veux pas de mal.
Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai. À l'arrivée de l'été, il en faudrait plus des nouvelles comme ça.
Ouais. Voilà. Et ben merci Quentin.
Merci Quentin.
Merci messieurs.
C'était beau. C'était.
Bah franchement, je me suis régalé. C'était ma première dans la stream team.
Ouais, bah ta dernière aussi.
Ah d'accord. Bah, non, franchement, c'était bien.
J'ai dit à Quentin, tu reviens quand tu veux toutes les semaines.
C'est vrai.
Bah ouais. Okay. On est deux, Maxime, à présenter cette émission. merci Maxime, merci Quentin, merci Simon aussi. Hein.
Ah bah oui, Simon, bien sûr.
C'est pas que des gros bras, Simon, c'est aussi un cerveau.
Et oui, mais en plus, c'est l'occasion de voir Quentin qu'on cite toutes les semaines.
Ah oui, alors d'ailleurs, parfois vous m'avez bien allumé dans les. Si.
Ça va,
les 7 baltringues de Quentin.
Non, ça nous ressemble. Non, c'est Maxime. Non, c'est Maxime.
Moi, en fait, bon, on va te le dire maintenant.
Vas-y.
On t'a fait venir pour que les gens jugent d'eux-mêmes, jugent sur pièce.
D'accord. Bon, bah écoutez.
On va être déçus.
Ouais, ça c'est sûr.
J'allais dire merci Quentin du coup, mais en fait, on t'a déjà remercié.
Merci Quentin. Ouais, mais on ne remercie jamais assez.
C'est la gymnastique. Et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime.
C'est ça.
Voilà, avec ou sans Quentin, ce sera la surprise.
Salut.
Si les gens te réclament, si vous voulez Quentin, réclamez-le sur Apple Podcast, ou venez nous voir sur Twitter. Si vous voulez du Quentin toutes les semaines, il faut le réclamer. Parce que c'est pas une évidence.
À 10 demandes, il revient.
Allez,
exactement.
Faisons ça.
Ok, et ben, ça risque d'être un peu gênant.
N'hésitez pas.
Déjà, il faut être allé jusqu'ici et c'est pas
sûr. Ouais, c'est pas sûr. Hein.
C'est pas sûr. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.